Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audible Studio présente Anatomie de l'horreur de Stephen King, traduit de l'américain par Jean-Daniel Breck et annoté par Jean-Pierre Croquet, lu par François Montagu. Il est facile, peut-être trop facile, de rendre hommage aux morts. Ce livre est dédié à 6 maîtres du macabre. Robert Bloch, Jorge Luis Borges, Ray Bradbury, Frank Belknap Long, Donald Wandrei, Manly Wade Wellman. Étrangers, pénètre ici à tes risques et périls. En ce lieu sont des tigres. Quelle est la pire chose que tu aies jamais faite? Cela, je ne te le dirai pas, mais je te dirai la pire chose qui me soit jamais arrivée. La chose la plus épouvantable. Peter Straub, Ghost Story.
Well, we'll really have a party, but we gotta post a guard outside.
Ouais, on va vraiment faire la fête, mais il faut qu'on mette un garde dehors.
Eddie Cochrane. Come on, everybody. Avant-propos de la nouvelle édition. Ce qui vous fait peur. Toute ma vie, je suis allé voir des films qui font peur. Et ce, dès les années 1950, avec leurs monstres en noir et blanc, comme dans Le Scorpion Noir, et Les Soucoupes Volantes Attaquent, où les envahisseurs extraterrestres ressemblent beaucoup aux crevettes de District 9. Et quoique ma vie ait beaucoup changé depuis l'époque où la place de cinéma coûtait 25 cents et où on trouvait du vrai beurre dans le pop-corn, je me pose toujours les trois mêmes questions. Primo, pourquoi autant de films soi-disant d'horreur, même à gros budget, et peut-être surtout à gros budget, ne fonctionnent-ils pas? Secondo, pourquoi les fans du genre tels que moi vont-ils si souvent voir ces films avec de grands espoirs, pour sortir de la salle fort déçu, et, pire encore, sans avoir eu peur. Tertio, et c'est là le plus important, comment se fait-il que d'autres films, parfois ceux qui sortent sans le moindre battage, avec un budget minuscule et des acteurs inconnus ou débutants, fonctionnent, nous offrant à notre grande surprise terreur et étonnement. Oh, et une autre question en bonus. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Quelle partie de moi-même se sent-elle obligée de voir un nouveau remake de La colline à des yeux, pas terrible, ou de La dernière maison sur la gauche, brillant? J'ai 63 ans et les cheveux gris. N'aurais-je pas dû renoncer à ces pitoyables enfantillages? Apparemment, il n'en est rien, et je n'en ai même pas envie, bon sang. Dans Anatomie de l'horreur, livre écrit il y a près de 30 ans, j'affirmais que les gens attirés par les histoires de monstres et de massacres sont essentiellement sains d'esprit, quoique parfois morbides. Les critiques de ce livre, et il y en a eu pas mal, ont réagi de façon prévisible. « Ouais, bien sûr, qu'est-ce que tu pouvais dire d'autre? Que vous êtes une bande de malades du bulbe ?» Eh bien, c'est probablement la vérité, mais nous sommes aussi doués d'un surplus d'imagination. C'est parfois une bénédiction. Parfois, surtout quand il fait nuit noire et qu'on ne peut pas dormir, une malédiction. Parmi les accessoires dont nous héritons quand le bureau génétique nous gâte question imagination, figure une propension à l'inquiétude supérieure à celle du citoyen lambda. Alors, pendant que papa et maman sont au salon à regarder American Idol en grignotant des Doritos et à s'inquiéter à l'idée que leur crooner préféré se fasse éliminer, leur gamin, ou gamine, à l'imagination hypertrophiée, est en haut dans sa chambre en train d'écouter Slipknot et de se demander si les Doritos ne donnent pas le cancer. Être imaginatif signifie avoir une idée plus claire de sa fragilité. Celui ou celle qui est imaginatif se rend compte que tout peut tourner à la catastrophe, à tout moment. Il ou elle n'ira pas croire que les tueurs en série ne frappent que les autres. Il ou elle sait que des types comme Henry se baladent en liberté, et qu'il est plus probable de croiser l'un d'eux que de gagner 350 millions de dollars à la loterie. Et il y a plein d'autres tueurs en série. Ils ont pour nom cancer ou AVC, ou encore ce crétin d'alcoolo carburant à la vodka qui roule à contresens sur une voie rapide, la vôtre, à 180 km/h, en fantasmant que sa minable Honda Accord est le Faucon Millenium. Dans un cas de ce genre, le scénario optimiste est la mort instantanée par décapitation. Et le pessimiste? On se retrouve paraplégique, à pisser dans une poche fixée à la hanche pendant 25 ans. Et avoir une imagination hypertrophiée, c'est le savoir avec certitude. Je suis prêt à affirmer que les gens qui acceptent de se distraire en regardant American Idol à la télé, ou encore une troupe amateur interpréter la mélodie du bonheur à la salle des fêtes du coin, souffrent de myopie de l'imagination. Ceux d'entre nous qui ressentent profondément la peur, et qui voient en plus noir, sont peut-être malades du bulbe, mais au moins ils sont vivants. Et courageux aussi, parce qu'ils persistent à avancer en dépit de toutes les tuiles qui peuvent leur tomber sur la tête. Pour eux, les films d'horreur, c'est une soupape de sécurité. C'est une sorte de rêve éveillé. Et quand dans un film des gens ordinaires vivant une vie ordinaire se retrouvent plongés dans un cauchemar sanglant, cela leur permet de relâcher la pression qui sinon risquerait de les catapulter dans les nuages comme la chaudière qui explose et démolit l'hôtel Overlook dans Shining. Je parle du livre, bien sûr. Dans le film, tout le bazar finit gelé. C'est ballot, hein? Nous nous réfugions dans des terreurs pour de faux afin d'éviter que les vrais nous terrassent, nous gèlent sur place et nous empêchent de mener notre vie quotidienne. Nous pénétrons dans les ténèbres d'une salle de cinéma en espérant de mauvais rêves, car le monde normal où nous vivons semble tellement meilleur quand il s'achève. Si on garde ça à l'esprit, il devient plus facile de comprendre pourquoi les bons films d'horreur fonctionnent, même s'ils le font par accident, comme c'est souvent le cas, et pourquoi les mauvais, qui se comptent par centaines, tombent à plat. Effets spéciaux numériques, maquillage sophistiqué, explosion de poches de sang, ça ne fait plus peur si on est âgé de plus de 14 ans, soit 3 ans de moins que l'âge requis aux États-Unis pour voir un film classé R. Les gamins ont déjà vu ça 1000 fois. C'est chiant. Si un film d'horreur veut faire le job, il doit proposer autre chose que du gore. Soit par hasard, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, soit par génie pur, Sam Raimi, Steven Spielberg, certains cinéastes parviennent parfois à ce résultat. Ils farfouillent dans notre inconscient, ils trouvent des choses si terribles que nous n'arrivons pas à les verbaliser. Enfin, sauf quand on a assez de fric et assez de courage pour passer 20 ans sur le divan d'un psy, et nous permettre de les affronter. Pas de façon directe, cependant. Rares sont ceux d'entre nous capables de regarder la Gorgone en face. Les êtres humains se débrouillent mieux avec les symboles. La croix égale la religion chrétienne, le svastika égale le nazisme, le norosisme, si vous êtes Brad Pitt dans Inglourious Basterds. Un autocollant sur la lunette arrière de votre pick-up montre que vous portez toujours le deuil de Dale Earnhardt, le champion de stock car. Cela posé, la thèse avancée dans Anatomie de l'horreur, ce bouquin que j'ai écrit il y a des lustres, est toujours valable. La bonne histoire d'horreur, c'est celle qui fonctionne au niveau symbolique, qui utilise des événements fictifs, et parfois surnaturels, pour nous aider à comprendre nos peurs les plus profondes. Remarquez que j'ai écrit « comprendre » et non pas « affronter ». Je pense qu'une personne ayant besoin d'aide pour affronter ses peurs n'est pas vraiment saine d'esprit. Si l'on suppose que la majorité des lecteurs d'histoires d'horreur sont comme moi, et c'est mon avis, alors nous sommes aussi sains d'esprit, voire davantage que ceux qui se contentent de lire People, leur quotidien du matin et quelques blogs, puis se déclarent bons pour le service. Mais mes amis, être obsédé par les faits et gestes des célébrités, plus la réaffirmation des opinions politiques que l'on est prêt à défendre mordicus, ce n'est pas cultiver son imagination. Ce n'est guère mieux qu'un cafard, accessoirement doté de pouces opposables et capable de compter jusqu'à 10. Je suis sûr que quantité des prétendus réalistes qui font tourner le monde pensent, en nous voyant acheter une revue dont la couverture affiche un monstre en état de décomposition avancée, que nous sommes des cinglés et des pervers, prêts, si ça se trouve, à faire un massacre dans le lycée du coin. Mais c'est leur problème. Vous, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, tout va bien. Faites l'amour, pas la guerre, je suis pour. Tant que j'ai mon Jason et mon Freddy. Que les fans d'American Idol entassent leurs bisounours. Moi, je préfère mes trouillounours. Et puis, comment ne pas adorer un genre dans lequel un film, le projet Blair Witch, réalisé avec un budget inférieur à 100 000 $, peut foutre la frousse au monde entier et rapporter la somme fabuleuse de 250 millions $. Soit c'est de la démocratie à l'état pur, soit c'est de l'anarchie à l'état pur. Faites votre choix. Les deux appellations me semblent également adaptées. Voilà un cas où le budget ridicule et les interprètes inconnus sont devenus partie intégrante du succès du film. Il n'y a pas d'esbrouf ni rien de bidon dans Blair Witch, contrairement à tous les films de la série Saw, à l'exception des deux premiers, l'équivalent cinématographique d'un char pour le défilé de Thanksgiving. Une chose est sûre, Blair Witch a l'air pour de vrai, et c'est l'impression qu'il vous donne. Grâce à cela, il évoque votre pire cauchemar, celui dont vous avez émergé octant et pleurant de soulagement parce que vous vous croyez enterré vivant, et ce n'était que le chat qui avait sauté sur le lit pour venir dormir sur votre poitrine. L'horreur, comme la comédie, ça a l'air facile à faire. Tantôt, on jette une tarte à la crème sur quelqu'un et on lance la caméra. Tantôt, on lui jette du sang sur la figure et c'est parti. Ça ne peut que marcher, pas vrai? Erreur. L'horreur n'est pas un genre délicat. Rien de délicat ni de raffiné dans des films où des gens se transforment en tas de gelée quand une épidémie extraterrestre se met à les dévorer vivants. Mais c'est un genre mystérieux. Ce qui marche une fois, le coup de la main qui jaillit du tombeau à la fin de Carrie, par exemple, rate souvent par la suite. Sauf quand ça remarche. Ce qui a marché dans une toile au budget ridicule comme Blair Witch risque de louper si on booste le budget. Voir par exemple la suite, Blair Witch 2, le livre des ombres, moi j'ai bien aimé, mais j'étais presque le seul. Faire un film d'horreur réussi, c'est aussi difficile que de piéger un éclair dans une bouteille. Et il arrive que même les cinéastes les plus talentueux n'y parviennent qu'une ou deux fois. Lorsque Sam Raimi a fini par revenir à ses racines en tournant jusqu'en enfer, il a créé un film épatant, mais pas particulièrement terrifiant. Si vous voulez de la terreur, il faut vous en remettre à Evil Dead, ou à Rendez-vous avec la peur, le film britannique qui a inspiré Jusqu'en enfer. Et peut-être perdrez-vous quand même votre temps. Un bon film d'horreur, ça ressemble beaucoup à une bonne blague. Si la chute sert de trop, elle finit par s'user. Quand on s'est passionné pour le film d'horreur pendant un certain temps, on finit par s'apercevoir que les mêmes thèmes et les mêmes croque-mitaines ne cessent de réapparaître. Et les croque-mitaines portent souvent le même casque de hockeyeur. C'est en partie parce que nous avons tendance à revenir vers ce qui nous fait peur. Dans la vraie vie, on appelle ça un trouble obsessionnel compulsif. Et en partie parce que... autant l'avouer. L'horreur est le terrain de chasse cinématographique préféré des escrocs et des spéculateurs. Les studios, comme les indépendants, ont tendance à donner le feu vert aux projets les plus répétitifs, actionnant la pompe à fric jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa dernière goutte. En conséquence, on a droit à des cycles que les fans du genre ont déjà vus maintes et maintes fois. Le génie accouche d'une œuvre géniale, l'œuvre géniale accouche d'une flopée de piètres imitations. Rappelez-vous tous ces navets visibles uniquement à la télé ou en vidéo avec une maison hantée. Ou un gamin possédé du démon qui vous ont fait crever d'ennui. Les piètres imitations engendrent des comédies. Après quoi l'idée de base cesse de gigoter pendant un temps avant de revenir à la vie, comme un vampire dans son cercueil. Voici trois exemples précis de ce phénomène, en commençant par le projet Blair Witch. La première fois que j'ai vu Blair Witch, c'était dans une chambre d'hôpital. À peine 12 jours après qu'un conducteur distrait m'eût démoli et envoyé valdinguer dans le fossé d'une route de campagne. D'une certaine façon, c'était les conditions idéales. J'étais ravagé de douleur de la tête aux pieds, abruti par les antalgiques, et je visionnais une cassette pirate pourrie sur une télé portable. Comment avais-je obtenu cette cassette? Ça ne vous regarde pas. À peu près au moment où les trois cinéastes en herbe, Heather Donahue, Joshua Leonard et Michael Williams, interprétés, quelle coïncidence, par Heather Donahue, Joshua Leonard et Michael Williams, commencent à découvrir d'étranges symboles lovecraftiens accrochés aux arbres. J'ai demandé à mon fils qui regardait le film avec moi d'éteindre cette saleté de télé. C'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai laissé tomber un film d'horreur en plein milieu, parce que j'avais trop peur de le regarder. Ça s'expliquait en partie par les images tremblantes, filmées caméra au point par un caméscope V8, deux ou trois autres de format 16 mm étant fixés aux épaules des cinéastes, en partie par les médicaments, mais la vérité, c'est que j'étais mort de trouille. Cette forêt ne ressemblait pas à un lieu de tournage hollywoodien, elle ressemblait à une vraie forêt, où de vrais gens risquent de se perdre. Je me suis dit alors que Blair Witch était un troublant film d'horreur commis par accident. Et mes visionnages ultérieurs, là je l'ai regardé jusqu'à la fin, ne m'ont pas fait changer d'avis. L'intrigue est on ne peut plus simple. Les trois gamins qui ont décidé de réaliser un documentaire sur une histoire de sorcière clairement bidon se perdent en tournant leur film. Nous savons qu'ils ne s'en sortiront jamais. Dès l'ouverture du film, un carton nous apprend qu'on ne les a pas retrouvés à ce jour. Ne reste que les images tremblantes, déconnectées et terrifiantes qu'ils ont tournées. Voilà une idée complètement géniale, qu'un gros budget n'aurait fait que massacrer. Si ce film d'horreur documentaire, tourné avec des bouts de ficelles usées, a un tel impact, ce n'est pas en dépit du jeu malhabile de ses acteurs, mais grâce à lui. Leur sort nous inspire de plus en plus d'inquiétude, y compris celui de l'agaçante Heather qui veut tout contrôler, qui ne la ferme jamais et qui persiste à affirmer que tout ira bien longtemps après que ses deux compagnons, et le public avec eux, ont compris que tout ira mal. Sa dernière scène, un gros plan éprouvant où elle accepte ses responsabilités alors qu'une larme s'attarde sur les cils de son œil droit, est d'une puissance hors de portée de l'immense majorité des films hollywoodiens, y compris ceux des plus grands réalisateurs. L'intrépide cinéaste qui affirmait avec assurance « Je sais exactement où nous allons » a été remplacé par une femme terrifiée et au bord de la folie. Et en la voyant dans une tente enténébrée, après 6 nuits passées dans la forêt, le caméscope V8 braqué sur son visage, nous comprenons qu'elle en a conscience. Blair Witch, me semble-t-il, est un film sur la folie. Car qu'est-ce que la folie, sinon se perdre dans la forêt qui pousse même dans le plus sain des esprits? Les images deviennent de plus en plus saccadées, le montage de plus en plus bizarre, les dialogues de plus en plus déconnectés de la réalité. Alors que le film arrive à son terme, avec 80 minutes et quelques, il a autant d'impact qu'un missile sol-sol bourré de dynamite. L'image vidéo va jusqu'à disparaître pendant de longs moments. Tout comme la raison disparaît de l'esprit d'un homme ou d'une femme perdant son emprise sur le monde réel. Il ne nous reste qu'un écran quasiment noir, des halètements, des bribes de dialogue elliptiques, tantôt compréhensibles, tantôt énigmatiques, des bruits dans la forêt, qui sont peut-être d'origine humaine ou peut-être pas, et des images floues, entrevues en un éclair. Un tronc d'arbre, une branche, une toile de tente vue en plan si rapproché que le tissu ressemble à de la peau verte. « J'ai faim, j'ai froid, je suis traqué », murmure Heather.
J'ai peur de fermer les yeux et j'ai peur de les ouvrir. » En la voyant plongée dans l'irrationnel, je partageais son sentiment. Le point culminant du récit survient lorsque Heather et Michael découvrent au fond de la forêt une maison en ruine. Tournée alors presque totalement en 16 mm noir et blanc, le film nous assène une série d'images simultanément prosaïques et presque trop insoutenables. L'intérieur déglingué de la bâtisse semble quasiment nous regarder. Toujours armée de sa caméra, Heather monte en courant à l'étage. À ce moment-là, ses deux amis semblent l'appeler de tous les coins, et l'objectif baladeur effleure les empreintes de mains sanglantes des enfants qu'on a presque sûrement tués dans cette maison. Aucune musique dramatique, ni aucun effet de ce genre. Blair Witch n'a pas besoin de stéroïdes cinématographiques. On n'entend que des bruits de pas, des appels qui viennent de partout, et les gémissements de plus en plus terrifiés de Heather. Finalement, elle descend dans la cave, où il s'avère que l'un des récits bidons qu'on leur avait raconté avant leur périple n'est pas bidon du tout. Michael, ou Josh, se tient dans un coin, attendant sans rien dire que la chose de la forêt fasse de lui ce qu'elle veut. On entend un choc sourd lorsque la dite chose fond sur Heather par derrière. La caméra tombe, ne montrant qu'un néant flou. Fin du film. Et si vous êtes comme moi, vous regardez le générique et essayez d'échapper au gamin de 10 ans terrorisé en la personne duquel vous avez régressé. Étant donné le succès démesuré de Blair Witch, son style mêlant horreur et documentaire a suscité moins d'imitations qu'on ne l'aurait cru. C'est à mon avis parce que les nababs de Hollywood considèrent comme insultant que des amateurs s'amusent avec une caméra, et n'ont aucune envie de ressembler eux-mêmes à des amateurs. Dans l'une des séquences de Blair Witch, on entend un avion vrombir dans le ciel. Et bien que ce ne soit pas gênant dans le contexte du film, n'importe quel producteur hollywoodien se serait arraché la perruque en entendant ça dans sa salle de projection. Et n'importe quel dirigeant de studio n'aurait pu s'empêcher de dire « Ces gamins sont des inconnus, on ne peut pas les remplacer. Qui est hot chez Disney en ce moment ?» Les faux documentaires hollywoodiens qui me viennent à l'esprit, Cloverfield, En quarantaine, remake du film espagnol Rec, Chronique des morts vivants, sont tous fort bons. Mais seules les Chroniques de George A. Romero approchent de la pureté de Blair Witch. Ce n'est qu'avec District 9 qu'on a trouvé le génie dans sa perfection. Ce film n'est pas pur, si on entend par cela une adhésion absolue à l'idée d'un amateur armé d'une caméra. Et, bien entendu, D9 ne relève pas non plus de l'horreur pure. Mais sa technique lui permet d'accéder à une sensation de réalité rarement présente dans les vieux films de monstres venus de l'espace. Usant comme il le fait de divers médias, scènes de documentaires, fausses informations et même, dirait-on, vidéos familiales, District 9 est plus proche de l'adaptation radio de La Guerre des Mondes par Orson Welles que d'un film à gros budget mais pas très marquant comme Independence Day. Même le vaisseau mère de D9 semble réel. Plutôt qu'à une apparition inspirant la terreur sacrée, voire carrément céleste, comme le vaisseau mère de Rencontre du troisième type, ce truc ressemble à un semi-remorque en rade que son chauffeur, sans doute bourré, aurait abandonné dans une rue à stationnement interdit. Pour ce qui est du sous-texte, D9 n'a rien à voir avec Blair Witch. Neil Blomkamp s'intéresse à la xénophobie et non à la folie. Mais je serais prêt à affirmer que sans Blair Witch, D9 n'existerait pas. Du moins sous la forme qu'est la sienne. Et avant de quitter Blair Witch, je tiens à vous recommander Ultimate Patrol, le dernier film en date de Daniel Myrick. Moins réussi que Blair Witch, il est néanmoins d'une ambition remarquable et bénéficie de la même ambiance angoissante. Aucun film d'horreur, documentaire, comédie n'est encore sorti à ce jour. Mais je suis sûr qu'il y en a au moins 3 en préparation. Quoi qu'il en soit,
assez des symboles païens et des maisons en ruine au fond des bois. Parlons zombies, maintenant. Ça fait un bail qu'on en trouve au cinéma. Vaudou, chouette titre original, I Walked with a Zombie, film pas terrible, est sorti en 1943. La sorcière noire, une machine carburant à l'énergie sexuelle et bénéficiant de la plantureuse et délectable poitrine de June Wilkinson, est entrée dans les salles en titubant en 1960. On chauffe un peu plus, mais ça n'a rien de génial. La nuit des morts-vivants de Romero a suivi en 1968. Un film d'horreur révolutionnaire, pas de doute. Encore à ce jour, les fans peuvent vous dire où ils se trouvaient quand ils ont compris que Johnny, le frère de Barbara, venait la chercher pour de bon. Mais le véritable coup de génie, c'était sa suite. Zombie. Avec une situation de départ typiquement américaine. Les survivants de l'épidémie originelle piégés dans un centre commercial encerclés par des morts-vivants. Le paradis du consommateur américain devient un enfer de chrome et de plastique étincelant. Et les consommateurs deviennent les consommés. Sorti en 1979, au moment où dans les centres commerciaux les multiplexes cessaient d'être banals pour devenir des musts, c'était le film de terreur idéal au moment idéal. L'un des rares films sans classification à connaître le succès. Le génie dans sa perfection, ce serait L'Armée des Morts, le remake de Zombie tourné par Zack Snyder en 2004, dont la séquence d'ouverture est une des meilleures du genre. Anna, Sarah Paulet, actrice et cinéaste des plus douées, se détend au lit avec son mari Louis lorsque débarque l'adorable petite patineuse qui habite dans la maison voisine de leur lotissement de la banlieue de Milwaukee. Quand Louis va lui demander ce qu'elle veut, l'adorable petite patineuse lui déchire la gorge à coups de dents, le transformant en zombie, et dans la version de Snyder, les zombies sont rapides. Romero n'a jamais aimé cette partie, mais ça fonctionne. Grâce au montage inspiré, quasi miraculeux du film, quand a-t-elle attrapé les clés de la voiture, par exemple, Anna réussit à fuir, d'abord dans un quartier transformé en abattoir, et pour finir à la campagne, avec un petit centre commercial bien pratique à portée de main. Je suis prêt à affirmer que les séquences de terreur les plus efficaces sont dues à l'instinct ou au hasard, plutôt qu'au scénario et à la mise en scène. Et c'est le cas ici. Paulet est une actrice canadienne dont le visage était quasiment inconnu du public américain en cette année 2004. Principal titre de gloire, s'être fait virer par Disney après avoir refusé d'ôter son insigne de la paix lors d'une cérémonie de remise de prix alors qu'elle avait 12 ans. « Retourne chez toi, méchante !» Si nous avions vu une actrice comme Julia Roberts ou Charlize Theron dans le rôle d'Anna, nous aurions su qu'elle allait survivre. Comme c'est Paulet, nous l'encourageons, sans avoir la certitude qu'elle s'en tirera. Ces 9 premières minutes constituent une sonate de l'angoisse. L'ouverture prend fin au moment où Anna emboutit un arbre avec sa voiture. Autre miracle concocté dans la salle de montage. La voiture heurte l'arbre côté conducteur, mais dans le plan suivant, elle fonce droit sur lui. Le générique qui suit, illustré par « The Man Comes Around », une chanson de Johnny Cash, est plein d'images documentaires ou pseudo-documentaires. Et revoilà l'influence de Blair Witch, censée nous montrer l'émergence de l'épidémie de zombies. Mais le premier plan qui vient ensuite nous montre quelque chose de tout différent. Et c'est là que Snyder nous dévoile le véritable sujet de son remake inspiré. Il sait mieux que personne ce qui, à l'époque, fait tourner la machine à terreur. Sur ce bref plan en noir et blanc, figure ce qui ressemble à un millier de musulmans dévots se prosternant à l'unisson en direction de la Mecque. Une image de vénération de masse que la plupart des Américains trouvaient dérangeante. En 2004, 3 ans à peine après le 11 septembre, le consumérisme rampant était le cadet de nos soucis. Ce qui hantait nos cauchemars, C'était l'idée de terroristes motivés par une idéologie et une ferveur religieuse impitoyable et irrationnelle, croyait la majorité d'entre nous. On pouvait les massacrer et les brûler, mais ils continueraient d'affluer, nous disait le journal du soir. Ils continueraient d'affluer jusqu'à ce que nous soyons tous morts, eux ou nous. La seule façon de les arrêter, c'était de leur coller une balle dans la tête. Ça vous rappelle quelque chose? Et n'allez pas m'accuser de racisme ou de préjugés religieux. On ne parle pas ici de concepts politiques, religieux ou intellectuels, on parle de terreur. Et, me semble-t-il, c'est précisément ce que sont les zombies de Snyder. Des terroristes rapides qui ne renoncent jamais. Avec eux, on ne peut pas débattre. On ne peut pas discuter. Et on ne peut pas les menacer de représailles envers leur maison ou leur famille. Tout ce qu'on peut faire, c'est les descendre et rester à l'écart de ceux qui bougent encore. Rappelez-vous, leur morsure est pire que mortelle. « Ils sont morts ?» demande un des survivants du centre commercial à Steve, le Richard répugnant. Sa réponse, à peu près. Ça flanque les jetons. Mais dans l'armée, la terreur transcende en partie le sous-texte et se jette droit sur le ça. Le passage le plus terrifiant du film n'a rien à voir avec la politique. L'un des survivants du centre commercial, Kenneth, interprété par Ving Rhames, communique avec un autre survivant, Andy, interprété par Bruce Bonhoe, qui est piégé sur le toit d'un bâtiment proche. Ils jouent aux échecs en se transmettant leurs coups sur des tableaux effaçables et repèrent les zombies ressemblant à des célébrités. Andy, un tireur d'élite, les descend ensuite. Après s'être fait mordre par une goule, Andy, mourant ou déjà mort, envoie à Kenneth un ultime signal. Pas de mots, mais une traînée de sang. Dans ce plan de 3 secondes, Snyder nous apprend tout ce que nous avons besoin de savoir sur l'appétit insatiable tapis dans la cervelle en décomposition d'un mort-vivant. À la fin, les survivants, ceux qui n'ont pas été tués par un zombie ou par l'un des leurs, apparaissent sur le bateau de croisière et de beuverie du répugnant Steve, en route pour une île qui n'est pas nommée, où ils espèrent trouver refuge. Le générique de fin suggère que cet espoir sera probablement déçu. Ce n'est pas une conclusion très riante, mais elle n'a pas fait de mal aux recettes. L'armée a détrôné au box-office La Passion du Christ de Mel Gibson. Alors, John Lennon s'est peut-être planté. Ce sont les zombies, et non les Beatles, qui se sont révélés plus populaires que Jésus. Et cette fin traduisait probablement la peur la plus enracinée chez les spectateurs. Comment échapper à des terroristes qui ne craignent pas de mourir? Inutile de dresser la liste des dizaines d'imitations. La comédie vient après l'imitation comme la nuit vient après le jour. Shaun of the Dead, brillant. Black Sheep, gentiment absurde mais pas terrible en fin de compte. Et bienvenue à Zombieland, que je n'ai pas vu au moment où j'écris ces lignes. Celui-ci semble prometteur. Je veux dire, Woody Harrelson, dans le rôle d'un pistolero tueur de zombies nommé Tallahassee, on ne peut qu'adorer ça. Mais j'ai des doutes. Notamment parce qu'il a l'air conçu pour plaire, mais surtout parce que je n'aime pas voir mes monstres bien-aimés déguisés en clowns et victimes de moqueries. Je les préfère crus, méchant et encore saignant. Ce qui nous amène au meilleur film d'horreur du nouveau siècle, le brillant remake par Denis Iliadis de « La dernière maison sur la gauche ». Le moteur qui propulse ce film est le plus puissant que le genre ait à offrir. La peur de l'étranger assassin. Des centaines, voire des milliers de films de ce genre ont été tournés au cours de la longue histoire du cinéma de terreur. Et la plupart d'entre eux ont la même prémisse sous-jacente. On rencontre l'étranger assassin, soit pour expier au nom du karma un acte répréhensible, pensez à Janet Leigh, dans Psychose, qui n'aurait jamais pris une douche au motel Bates si elle n'avait pas piqué dans la caisse de l'entreprise de Phoenix où elle bossait. Soit, et c'est encore pire, parce qu'on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Rares sont les suites d'étrangers assassins qui m'ont emballé. Saw 2 est l'une des exceptions qui confirme la règle, car elle repose sur une ambiguïté morale qui me met mal à l'aise. Dans Les Griffes de la Nuit, Freddy Krueger représente le mal pur. Aucun doute sur ce point. Nous le détestons et nous le craignons dès le début. Et pourquoi pas? C'est un pédophile, un meurtrier et un psychopathe défiguré revenu d'entre les morts. Mais 7 séquelles plus tard, aussi grotesque que ça paraisse, c'est devenu un vieux pote. Lorsque Freddy contre Jason est sorti en 2003, nous n'étions plus censés encourager les bons. Des ados sans une once de graisse. Ce qui nous enthousiasmait, à mesure que les séquelles s'accumulaient, c'était le nombre grandissant de cadavres. Dans ce cas, on a affaire à des snuff movies, un point c'est tout. Quand je vais voir ces séquelles, j'espère y trouver du nouveau et je suis souvent frustré. Vous pouvez m'opposer l'excellente suite de Halloween par Rob Zombie, mais je vous ferai remarquer que l'histoire de Michael Myers vue par Zombie, collaboration inspirée s'il en fut, n'est pas une séquelle, mais un remake. Ce qui nous ramène à la version il y a 10 de La Dernière Maison, le meilleur concentré d'horreur des temps modernes. La famille Collingwood, Emma, John et leur fille Marie, est en vacances dans sa maison au bord du lac, laquelle se signale par un sinistre panneau à l'envers où il est écrit « Lac au bout de la route ». Marie, interprétée avec grâce et courage par Sarah Paxton, emprunte la voiture familiale pour aller en ville et rendre visite à son amie Paige, Martha McIsaac, qui travaille à l'épicerie du coin. Pendant qu'elle papote, un jeune homme nommé Justin, Spencer Treat Clark, essaye d'acheter un paquet de cigarettes avec un billet de $20 taché de sang. Quand Paige refuse de le lui vendre, il n'a pas de pièce d'identité, Justin lui propose de l'échanger contre un peu de shit, qui se trouve au motel où il loge avec sa famille. C'est cette rencontre fortuite qui mène aux terribles événements qui suivent. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il y a 10 commence à nous réserver des surprises. Clark, que vous vous rappelez peut-être en Ray Junior dans Mystic River, interprète tout en nuances le fils d'un maniaque homicide, Garrett Dillahunt dans le rôle de Krug. Il suffit de voir le regard fixe et troublant de Clark pour croire au psychopathe dangereux. Mais ce que ce regard exprime en réalité, c'est l'état de choc permanent d'un enfant victime d'abus qui est moins le fils de son père que sa victime. Marie et Paige sont capturées par Krug. Sa petite copine Sadie, Ricky Lindholm, et son frère Francis, Aaron Paul, rendu célèbre par Breaking Bad. À l'issue d'une tentative d'évasion ratée, Paige meurt poignardée et Marie est violée. Krug s'en occupe lui-même après que Justin a refusé l'invitation de son père à devenir un homme. Puis elle reçoit une balle alors qu'elle tente de gagner à la nage la maison où ses parents attendent son retour. C'est dans cette maison même que Krug et sa bande diabolique cherchent refuge lors d'un soudain orage. Une coïncidence, mais crédible, vu que c'est Marie qui les a volontairement orientés vers elle. Et c'est ainsi que les étrangers assassins sont abrités par les aimables parents de la fille qu'ils viennent de violer. Justin, qui a pris le collier de Marie, le laisse là où il est sûr que ses parents le trouveront. À peu près au même moment où Emma Collingwood l'aperçoit, enroulée autour d'une tasse de café, John et elle entendent des coups irréguliers à l'extérieur. C'est Marie, grièvement blessée mais vivante. Dans la version originale, elle est tuée après le viol. Elle a réussi à sortir du lac et à ramper jusqu'à la terrasse et frappe sur le mur de la maison avec un fauteuil à bascule. Ce qui suit est un festival de vengeance parentale. Maman plonge la tête de Francis dans l'évier de la cuisine, le noyant à moitié, puis lui enfourne le bras dans le broyeur de déchets et actionne celui-ci. Sadie est abattue dans la salle de bain. Krug se fait exploser la tête dans le four à micro-ondes après que le père furibond, par ailleurs chirurgien, l'a paralysé au-dessous de la gorge. Cette ultime touche est la seule erreur du film. En partie parce que la scène est présentée comme un flashback, tandis que la famille traverse le lac pour se sauver. En partie parce que c'est le seul moment où la dernière maison ressemble à un film d'horreur comme les autres. Et en partie parce que, bon sang de bonsoir, un four à micro-ondes ne fonctionne pas quand la porte est ouverte. La version 2009 de La Dernière Maison est le film le plus brutal et le plus intransigeant sorti dans les salles américaines depuis Henry, Portrait d'un serial killer, qui n'est pas sorti dans beaucoup de salles. D'abord classé X, il a fait sa carrière sans classification. Le meurtre de Paige et le viol de Marie dans les bois sont particulièrement éprouvants, car ces crimes sont empreints d'un effet de réalité cru, absent des abominations de Michael Myers et de Jason Voorhees. Ici, on ne trouve personne dans le public pour encourager les méchants. Lorsque Marie échoue finalement à garder sa culotte de coton blanc et que nous comprenons ce qui va vraiment se passer, nous sommes envahis par la rage et le chagrin. Et s'il existe une émotion plus étrangère que le chagrin à la série Vendredi 13, je ne vois pas vraiment ce que c'est. Nous nous identifions pleinement à la victime. Les méchants sont des ordures, et ils méritent bien ce qui leur arrive. Ce qu'ils ne méritent pas, c'est une séquelle où ils seront devenus nos potes. L'efficacité même de certains films d'horreur, ceux qui nous montrent l'étranger assassin dépouillé de ses masques, les condamne à subir les foudres de la critique. Owen Gleiberman, de la revue Entertainment Weekly, à qui je livre une chronique tri-hebdomadaire, a gratifié La Dernière Maison de la note F. Et celui-ci, à l'instar de Funny Games US, le remake américain survolté, réalisé par Michael Haneke de son film autrichien, a pris une volée de bois vert prévisible. Seul Roger Ebert a paru l'apprécier en partie, louant le travail des acteurs. Dealer Hunt, ainsi qu'il le fait remarquer, ne se contente pas de faire peur, il construit un personnage. Mais négligeant de souligner qu'un acteur se surpasse quand les motivations de son personnage sont crédibles, et que les événements décrits par le scénario ont quelque chose d'inéluctable. La version 1972 de « La dernière maison sur la gauche » écrite et réalisée par Wes Craven, est un film si mauvais qu'il en est presque absurde. Genre Abbott et Costello contre les violeurs. Les méchants sont des caricatures. L'éclairage est digne d'un film porno américain des temps héroïques. La maman de Marie, Estelle dans cette version, interprétée par Cynthia Carr, évoque furieusement la chanteuse de country Loretta Lynn, et les deux flics de service sont des stéréotypes balbutiants tout droit sortis d'un film comique des années 1930. La scène choc à la tronçonneuse, qui se déroule apparemment dans une salle de jeu lambrissée de sapins, je vous parie que c'était le fleuron de la villa du producteur, est hilarante. L'illustration musicale est une petite merveille. C'est peut-être le seul film traitant de kidnapping, de viol et de meurtre, affublé d'une musique de foire guillerette et libre de droit. On entend même un kazoo, instrument que j'ai peine à associer à la terreur. La seule chose positive à dire de ce film, c'est que la carrière de Craven n'a pu que progresser par la suite. Il est vraiment parti de très, très bas. La version il y a 10 est à la version originelle ce que l'œuvre d'un peintre en pleine possession de ses moyens est au gribouillis d'un mioche prometteur. Dès la scène d'ouverture, une promenade onirique dans la forêt, le travail de Sharon Meir, directeur de la photographie, est splendide et riche de contrastes. Après la scène où Krug massacre les flics qui l'emmenaient en prison, nous basculons dans un univers sous-marin tout de sérénité où Marie flotte sous un nuage de bulles argentées. Nous assistons à un ballet semblable, quoique plus éprouvant, dans la cuisine des Collingwood, lorsque la mère de Marie aguiche subtilement l'odieux Francis, espérant le voir baisser sa garde pour qu'elle puisse l'attaquer au couteau de boucher. Dans la version 1972, la scène correspondante, où la maman tente de trancher le zizi du méchant d'un coup de dent, est tout simplement grotesque. Pire, elle est drôle. J'affirme que si cette dernière maison avait été libre du fardeau de son infâme prédécesseur, et si on avait eu affaire à un film étranger à sous-titres, elle aurait eu droit à un succès critique du genre Répulsion, Les Diaboliques ou La Rivière du Hibou, le court-métrage de Robert Enrico diffusé aux États-Unis dans le cadre de la quatrième dimension. Dans une certaine mesure, la dernière maison a souffert de son intransigeance, et je pense qu'on lui a aussi refilé l'addition de tous ses infâmes prédécesseurs, en plus de celle de sa source d'inspiration. Mais il y a autre chose. Le film d'horreur, c'est une musique qui touche les nerfs plutôt que la cervelle. Et comme la plupart des critiques, Ebert a toujours été une exception à la règle, ont tendance à réagir avec la cervelle et non avec le cœur, il leur arrive d'être amusés, avec une certaine condescendance, par un film de trouille trop grotesque pour être pris au sérieux. Mais ils ont tendance à sombrer dans la fureur et l'indignation quand ils tombent sur un film qui joue avec succès des peurs les plus fondamentales. Ce que fait à la perfection La Dernière Maison, à l'image du chef-d'œuvre de Hitchcock dans le registre de L'Étranger Assassin. Et, tout comme le film d'il y a 10, Psychose a eu droit, à sa sortie, à un cœur presque unanime d'éreintement en règle. Hélas, la majorité des films d'horreur et des films gore ne valent même pas qu'on leur consacre une analyse foireuse comme celle à laquelle je viens de me livrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas qui mérite d'être vu et revu. Voici une sélection de ceux que j'ai appréciés durant les 15 dernières années. Une nuit en enfer. Un film d'horreur et d'action survitaminé de Robert Rodriguez avec George Clooney et Quentin Tarantino. Sorti au milieu des années 1990, le film présente en fait des méchants style 70, contraints de se planquer dans une boîte à striptease tenue par des vampires. À côté de ça, la saga Twilight paraît insipide. Scream, une parodie aussi futée que terrifiante de slasher movie, avec un psychopathe au masque inspiré d'Edward Munch. Écrit par Kevin Williamson. On passe du fou rire à la terreur authentique. À noter, la scène d'ouverture en écho à Terreur sur la ligne. Pas le meilleur moment de Drew Barrymore, mais son meilleur film d'horreur. Mimic, le premier film américain de Guillermo del Toro. Une œuvre aussi brillante que complexe qui exploite notre peur des recoins sombres, des mutations environnementales, de la science sans contrôle et des insectes tueurs qui nous ressemblent. Crédible d'une façon perverse, avec des effets spéciaux géniaux et le jeu épatant de Charles S. Dutton et de Mira Sorvino. Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. En résumé, un conte d'horreur lovecraftien fortement inspiré par la série britannique Quatermass et réalisé par des Anglais qui plus est. L'intrigue est brouillonne, mais les images saisissantes distillent une sensation d'horreur transcendante, bien au-delà de l'horizon des événements éponymes. J'ai toujours su que j'arriverais un jour à placer ce terme. Pi, tourné avec des bouts de ficelle par Darren Aronofsky. Ce film racontant la descente dans la folie d'un théoricien des mathématiques, il pense avoir trouvé un nombre à 216 chiffres qui peut lui permettre de s'enrichir en boursicotant, est un précurseur flagrant du projet Blair Witch. En sortant de la salle, je n'étais pas vraiment sûr de ce que j'avais vu, mais un profond malaise m'habitait. Ce truc ne vous lâche pas. La fiancée de Chucky. Non, je déconne. Peur bleue. Réalisé par Ronnie Harlin, l'idole des foules, sans doute capable de transformer Heidi en film d'action. « Donne-nous la formule secrète, ou alors je tue ta biquette !» Ce film sur les requins transgéniques n'est pas terrible, me direz-vous. jusqu'au moment où, à la surprise générale, l'un des super squales surgit de son bassin et tranche Samuel L. Jackson en deux.
« Yes !»
me suis-je écrié dans la salle. Et je chéris tous les films d'horreur capables de me faire réagir comme ça. Hypnose. Pour ce film, David Koepp, le scénariste-réalisateur, mérite de figurer au Panthéon. Son adaptation d'Écho, un roman de Richard Matheson sorti en 1958, est le récit troublant de ce qui arrive à un brave prolo, Kevin Bacon, lorsqu'il commence à voir des fantômes suite à une séance d'hypnose. Destination finale. J'adore tous ces films au scénario alambiqué. En somme, une version gore des dessins animés avec Bip Bip El Coyote. Mais seul le premier de la série est vraiment terrifiant, avec sa façon d'insister sur le fait que, ouais, on ne peut pas tromper la mort. Quand votre heure est venue, elle est venue. Jeepers Creepers, le chant du diable. Victor Salva est un cinéaste troublant et inégal, qui se trimballe un historique gênant. Il a été condamné pour abus sexuels sur mineurs. Mais ce film autour de l'affrontement entre un frère et une sœur et un tueur en série surnaturel en Floride est proprement terrifiant. Excellent à jouer sur la claustrophobie, la scène de la canalisation est géniale. Si vous ne l'avez pas encore vu, précipitez-vous. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. Mais restez à l'écart de la séquelle, avec ses ados chairs à pâté dans l'autocar. C'est de la merde. La prophétie des ombres. Richard Gere donne du poids et de l'ambiguïté à cette histoire de journaliste tentant de se remettre de la perte de sa femme et de déchiffrer les étranges dessins qu'elle a réalisés peu de temps avant de succomber à une tumeur au cerveau. Il est attiré par une ville de Virginie-Occidentale où l'on a signalé toutes sortes de phénomènes étranges, dont des apparitions d'une créature d'un autre monde baptisée l'homme papillon. Les bons films de terreur nous font parfois le même effet que ces rêves sinistres dont nous émergeons juste avant de sombrer dans le cauchemar à l'état pur. Le personnage interprété par Gere ne rencontre jamais l'homme papillon, ce qui n'est pas trop grave. Cette créature ou cette chose est d'autant plus terrifiante qu'elle reste dans l'ombre. Ce film m'a rappelé La Féline, le chef-d'œuvre de Val Lewton. Arak Attack, les monstres à huit pattes. Pas vraiment terrifiant, mais poilant. Des araignées géantes qui courent à toute vitesse et massacrent tout ce qui bouge. Les acteurs semblent prendre leurs pieds autant que les spectateurs. On aurait peut-être dû intituler ce film « La chose qui venait du drive-in ». 28 jours plus tard. Un film de zombies enragés, et qui enrage parfois le spectateur. Filmé en caméra numérique dans un style m'as-tu vu par Danny Boyle. Surtout remarquable par sa scène d'ouverture dans un Londres vidé de ses habitants suite à l'intervention d'une ligue de défense des animaux qui a eu la mauvaise idée de lâcher sur le monde une épidémie de morts vivants. L'influence du projet Blair Witch se fait sentir. Shaun of the Dead. Oui, je sais, c'est une parodie. Mais cette fiesta comique signée Simon Pegg et Edgar Wright recèle quelques scènes authentiquement terrifiantes. Et quelques scènes gore jouissives. La meilleure séquence mélange horreur et humour en un soufflet délicieusement répugnant lorsque Shaun ne remarque rien du soulèvement zombie qui se déroule autour de lui. Nous, on voit tout. Mais ce pauvre Shaun rate systématiquement le type qui se fait mordre quand il tond la pelouse, etc. Feu rouge. Dans ce film français, un mari alcoolique, Jean-Pierre Darroussin, et son épouse martyrisée, Carole Bouquet, s'engueulent et se séparent en revenant de la colonie de vacances où ils ont déposé leur gamin. Ce qui suit sur une route de campagne enténébrée est un film d'horreur à double détente aussi fascinant que le duel de Spielberg. Saw. Vous connaissez forcément, mais essayez de le revoir, et vous découvrirez que ça tient aussi la route en tant que polar. Idem pour Saw 2. The Jacket. Adrien Brody est génial. Ah, ses yeux de cocker. Dans cette histoire d'un vétéran devenu le sujet d'expérience d'un savant fou. Enfermé dans un casier de morgue, il est catapulté 15 ans dans l'avenir. Un film intense, plein d'effroi et du pressentiment de la tragédie. Le labyrinthe de Pan. La dure réalité que vit Ophélia, la guerre civile espagnole, et sa fuite dans un monde fantastique peuplé de faunes et de monstres, se mêlent à la perfection dans ce film exceptionnel de Guillermo del Toro. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus oublier l'homme pâle et sans yeux, cauchemar enfantin par essence, qui manque de capturer et de dévorer Ophélia avant qu'elle ait pu regagner, au moins pour un temps, le monde réel. The Descent. Si j'avais dû choisir un autre film à analyser en profondeur, ça aurait été celui-ci. Six femmes partent en expédition dans une grotte et tombent sur une race de créatures non humaines, qui ressemblent à l'homme pâle de Del Toro, maintenant que j'y pense. Si le film résonne en nous, c'est grâce à l'interaction entre ces femmes, les ressentiments et les secrets bien réels qui macèrent en elles, rendent les monstres plus crédibles que dans la majorité des films d'horreur. Je n'arrête pas de le répéter. Quand un film d'horreur est réussi, ce n'est pas parce que les effets spéciaux, et encore moins les monstres, nous terrifient. Si les personnages nous accrochent, le film est un succès et nous permet de réaffirmer notre décence fondamentale. Des serpents dans l'avion. Ce n'est que mon opinion, mais si vous n'avez pas aimé ce film, qu'est-ce qui vous prend de lire ce bouquin ? Hitcher, 2007. On ne fera jamais mieux que Roger Howard dans l'original. Mais voilà un oiseau rare, un remake qui fonctionne. Et Sean Bean est excellent dans le rôle créé par Howard. Avons-nous vraiment besoin de ce film ? Non. Mais c'est fantastique qu'on l'ait tourné. Et le thème existentiel de nombre de films d'horreur, des choses horribles arrivent à de braves gens n'importe quand, n'a jamais été exposé avec autant de clarté. Chambre 1408. John Cusack est admirable dans le rôle de l'écrivain cynique qui ne croit pas au surnaturel et qui découvre l'existence d'un monde invisible grouillant d'horreur qui dépasse l'imagination. Une plongée dans la folie unique dans les annales du cinéma. Et la chambre 1408 de l'hôtel Delphine est plus terrifiante que toutes les chambres réunies de l'hôtel Overlook de Kubrick. En négligeant de récompenser le travail de Cusack, le jury des Oscars a de nouveau prouvé qu'un grand acteur n'est presque jamais récompensé quand il joue dans un film d'horreur. Kathy Bates, dans Misery, est l'exception qui confirme la règle. The Mist. La fin vous brisera le cœur, comme la vie en fin de compte. Frank Darabont a une vision de l'enfer totalement sans concession. Si vous voulez du sirupeux, le cinéma hollywoodien sera ravi de vous en servir dans votre multiplex, croyez-moi. Mais si vous cherchez du réel, c'est par ici que ça se passe. Darabont aurait pu disposer d'un plus gros budget s'il avait ajouté un épilogue genre « Rassurez-vous, tout va bien ». Mais il a refusé. Son courage et son intégrité éclatent dans chaque scène. Funny Games. Déjà évoqué plus haut. Mais si vous aimez le genre et ne l'avez pas encore vu, allez-y. Pour la simple raison qu'il met le genre sans dessus-dessous. Quand les choses ne se passent pas conformément au plan des méchants psychopathes, l'un d'eux décide de... Eh bien, vous verrez. Qu'il me suffise de dire que ce film viole les lois de la réalité et que c'est toujours une bonne chose. Les ruines. Le scénario que Scott B. Smith a tiré de son roman n'est pas tout à fait aussi terrifiant que celui-ci. Mais l'inquiétude et l'angoisse croissent à mesure que le spectateur comprend que personne ne s'en sortira. Avec ses interprètes quasiment inconnus, c'est le film idéal pour un double programme de Halloween, avec L'Armée des Morts de Snyder. The Strangers. Inquiétude et horreur savamment orchestrées en crescendo à mesure qu'un jeune couple, Liv Tyler et Scott Speedman, subit les assauts d'un trio de psychopathes masqués. Ça commence en douceur, ça passe du malaise à la terreur, et de là à l'horreur. De la même classe que Jeepers Creepers, le chant du diable, mais en plus existentiel. Pourquoi ça arrive ? parce que.
Comme le cancer, l'AVC ou un type qui roule à contresens sur la voie rapide à 180 km/h.
Ces films ne sont peut-être pas vos préférés. Nous ne réagissons pas tous à la peur avec la même intensité. Ce que j'essaie de dire, et de montrer par l'exemple, c'est que l'horreur au cinéma est une forme d'art puissante, et qu'il se passe bien plus sous la surface que ce que l'œil en perçoit immédiatement. D'où les joies troubles du genre. Et la prochaine fois que vos parents, ou votre cher et tendre, vous demandent pourquoi vous tenez à aller voir ces conneries, dites-leur ceci. C'est Stephen King qui m'y encourage. Il m'a dit de rechercher les meilleurs, ceux qui s'adressent à ce qu'il y a de bon dans le cœur humain.
Et aussi à ce qu'il y a de mauvais, bien sûr. Parce que c'est à ça qu'il faut faire gaffe.
Stephen King, Fangoria, janvier-février 2010. Avant-propos de l'édition de 1983. Environ 2 mois après avoir commencé de bosser sur Anatomie de l'horreur, j'en ai parlé à un de mes amis de la côte ouest, également amateur d'histoire et de films d'horreur. Je pensais qu'il serait ravi. Au lieu de quoi, il m'a jeté un regard d'horreur absolu et m'a traité de cinglé.
« Pourquoi ?» j'ai demandé.
« Offre-moi une bière et je vais te le dire, » a-t-il répondu. Je lui ai offert une bière. Il en a bu la moitié, puis s'est penché vers moi par-dessus la table, l'air mortellement sérieux.
« C'est cinglé parce que les fans vont te tomber sur le rable, » a-t-il dit. « Tu raconteras autant de conneries que de trucs à tester. Et aucun de ces types ne te tapotera la tête quand tu auras vu juste. »
Ils te rendront dingue en soulignant toutes tes erreurs.
Tu crois vraiment pouvoir trouver du matériel de recherche sur Massacre à la tronçonneuse?
Où tu vas le chercher? Dans le New York Times?
Je rêve.
Mais la moitié des gens que tu intervieweras te diront une chose, l'autre moitié te dira le contraire. Bon Dieu, même si tu vas voir Roger Corman pour qu'il te parle des acteurs de ses films des années 1950, il se plantera. Parce qu'il tournait la plupart de ses films en 3 semaines.
Mais, et je vais te dire autre chose.
La moitié des trucs que tu liras seront des conneries. Parce que les types qui aiment le genre sont exactement comme toi et moi. En un mot, cinglés.
Mais,
et tes propres souvenirs te joueront des tours.
Laisse tomber. Tu vas merder dans les grandes largeurs et les fans te démoliront parce que c'est pour ça que ce sont des fans.
Laisse tomber et écris un nouveau roman.
Mais d'abord, offre-moi une autre bière.
Je lui ai offert une autre bière, mais je n'ai pas laissé tomber, comme vous le voyez. Cependant, comme je n'avais pas oublié ses objections, dans l'avant-propos du bouquin, j'ai invité mes fans à m'écrire, afin de corriger mes erreurs. Les réponses ne sont pas arrivées par milliers, mais mon ami prophète de malheur ne se trompait pas vraiment. Il y en avait des centaines. Ce qui nous amène à Dennis Etchison. Dennis Etchison est un autre fan d'horreur de la côte ouest. De taille moyenne, le plus souvent barbu, un bel homme d'une façon tellement atypique pour un Angelino que c'en est rafraîchissant. Par ailleurs, drôle, aimable et intelligent. Il a de grandes connaissances en matière de littérature d'horreur et de plus grandes encore pour ce qui est des films d'horreur, les bons comme les pires. C'est aussi un sacré écrivain. Et si vous n'avez pas lu « Les domaines de la nuit », son recueil de nouvelles, vous avez raté une des grandes réussites de notre genre si spécial. Et non, je n'en parle pas dans ces pages, puisqu'il est paru après 1980. Ces nouvelles ne se contentent pas d'être bonnes. Elles sont toutes passionnantes, sans exception. Et pour certaines, authentiquement géniales. Du même calibre que, par exemple, « La belle qui vous fait signe » d'Oliver Onions. L'édition grand format était à tirage limité, mais il y aura bientôt une édition de poche. Et je vous conseille d'aller en courant à la librairie la plus proche de chez vous pour en acheter un exemplaire dès qu'il sera disponible. Et non, je ne suis pas payé pour faire de la pub, ça vient du cœur. Bref, Kirby McCauley m'a suggéré que Dennis serait le candidat idéal pour passer Anatomie de l'horreur au peigne fin, en vue de l'édition de poche. J'ai demandé à Denis s'il acceptait ce boulot et il m'a dit que oui. Le même jour, je lui envoyais par Federal Express mon paquet de courrier marqué « Tu as merdé ». Et je suis d'avis que Denis m'a rendu un fier service. Ainsi qu'à tous ceux qui se soucient d'exactitude, même dans un genre aussi ténébreux que l'horreur. Cette édition est nettement plus rigoureuse que l'édition originale. Et c'est grâce à Denis Etchison, ainsi qu'à tout un bataillon de fans d'horreur. Je tenais à ce que vous le sachiez, tout comme je tenais à remercier mon pote de m'avoir donné un coup de peigne et d'avoir ajusté ma chemise. Mesdames et messieurs, Denis Etchison, applaudissez-le, voulez-vous ? Il m'a donné un sacré coup de main. Stephen King, juin 1983. Avant-propos de l'édition originale. Le livre que vous tenez entre les mains résulte d'un coup de téléphone que j'ai reçu en novembre 1978. À cette époque, j'enseignais l'écriture et la littérature à l'Université du Maine, à Orono, tout en travaillant, durant les heures de loisirs dont je disposais, à la version définitive d'un roman intitulé « Charlie », paru depuis quelque temps au moment où vous lisez ces lignes. Mon correspondant n'était autre que Bill Thompson, l'homme qui avait édité mes 5 premiers livres, Carrie, Salem, Shining, Danse macabre et Le Fléau, entre 1974 et 1978. En outre, Bill Thompson, qui travaillait alors pour Doubleday, avait été le premier représentant du monde de l'édition new-yorkaise à lire mes œuvres de jeunesse avec intérêt et sympathie. Il avait été pour moi ce premier contact que tant d'écrivains débutants espèrent et trouvent si rarement. Doubleday et moi, nous étions séparés après la publication du Fléau et Bill avait également quitté la maison, devenant responsable éditorial chez Everest House, l'éditeur américain du présent ouvrage. Comme nous nous étions liés d'amitié au fil de nos années de collaboration, nous étions restés en contact, partageant de temps en temps un déjeuner ou une beuverie. La plus mémorable s'est déroulée en juillet 1978, le soir où nous avons regardé la retransmission télévisée d'une finale de baseball dans un pub irlandais de New York où la bière coulait à flots. L'enseigne placardée au-dessus du bar proclamait « Happy Hour pour les leftos de 8h à 10h ». Durant cette plage horaire, toutes les consommations étaient affichées à 50 cents. Quand j'ai demandé au barman quel genre de client pouvait débarquer à 8h du matin pour boire un rum Collins ou un gin Ricket, il m'a regardé d'un œil torve, s'est essuyé les mains à son tablier et m'a répondu « Des étudiants, comme vous ». Donc, en ce mois de novembre, peu de temps après Halloween, Bill m'a appelé et il m'a dit « Pourquoi n'écrirais-tu pas un bouquin sur le phénomène de l'horreur tel que tu le perçois ? Les livres, les films, la radio, la télé, tout le bazar. On le fera ensemble si tu veux. » Cette idée me paraissait à la fois séduisante et terrifiante. Séduisante parce que je ne compte plus les fois où on m'a demandé pourquoi j'écrivais ce genre de bouquin. Pourquoi les gens avaient envie de les lire? Pourquoi ils allaient voir des films de cet acabit? Bref, pourquoi ils étaient prêts à payer pour avoir peur? Ce qui semble en effet paradoxal. J'avais consacré à ce sujet pas mal de conférences et pas mal d'essais, y compris une introduction plutôt longuette à mon premier recueil de nouvelles, et l'idée de produire une déclaration définitive me paraissait fort attirante. Ensuite, me disais-je, il me suffirait de répondre aux curieux « Si vous voulez savoir ce que je pense de l'horreur, j'ai pondu un livre là-dessus. Lisez-le. C'est ma déclaration définitive sur les mécanismes du genre. » Terrifiante parce que ce boulot allait sans doute me prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies. Si je devais commencer par Grendel et sa maman et suivre ensuite un plan chronologique, même la version condensée du Reader's Digest nécessiterait 4 forts volumes. Bill me rétorqua que je devais me limiter aux 30 dernières années, tout en me ménageant la possibilité d'explorer les origines du genre. « Je vais y réfléchir », lui ai-je dit. Et j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi à un bon moment. Jamais je n'avais tenté d'écrire un livre théorique, et cette perspective m'intimidait. L'idée même d'avoir à dire la vérité m'intimidait. Une œuvre de fiction, après tout, n'est qu'un catalogue de mensonges, ce qui explique pourquoi les puritains ne sont jamais parvenus à tolérer la fiction. Quand un romancier se retrouve coincé, il lui suffit d'inventer quelque chose ou de revenir en arrière d'une ou deux pages pour changer quelque chose. Mais l'essayiste est obligé de s'assurer de la validité des faits, de la rigueur de la chronologie, de l'orthographe des noms propres. Et en plus de ça, le malheureux est contraint de se mettre en avant. Le romancier, lui, peut rester caché. Contrairement à l'acteur ou au musicien, il peut se promener dans la rue sans être reconnu. Tels des marionnettes, ces personnages occupent le devant de la scène pendant qu'ils restent peinards en coulisses. L'essayiste n'est malheureusement que trop visible. Mais cette idée était bougrement séduisante. Je commençais à comprendre ce que ressentent les cinglés qui prêchent dans Hyde Park lorsqu'ils installent leur caisse à savon et se préparent à monter dessus. Je voyais déjà les centaines de pages que j'allais noircir de mes délires passionnés. « Et en plus, on va me payer !» m'exclamai-je en gloussant et en me frottant les mains. Je préparais déjà pour le semestre suivant un cours intitulé « Les thèmes de la littérature fantastique ». Et on me donna l'occasion de parler d'un genre que j'adore, une aubaine qu'on n'offre que rarement aux auteurs de littérature populaire. À propos de ce cours, sur les thèmes de la littérature fantastique, le soir où Bill m'a appelé, j'étais assis à la table de la cuisine, une canette à la main, en train d'essayer d'en rédiger le programme, et confiant à ma femme que j'allais bientôt passer plusieurs heures à parler en public d'un sujet que je n'avais jusque-là abordé que de façon instinctive. Bien que nombre des films et des livres commentés ici fassent désormais l'objet de cours universitaires, je les avais lus, vus et analysés par mes propres moyens, sans le secours de manuels ou de cours polycopiés pour guider mes réflexions. Apparemment, j'allais bientôt avoir l'occasion de découvrir mes pensées pour la première fois. Cette phrase peut sembler étrange. Un peu plus loin, j'affirme qu'aucun de nous ne sait ce qu'il pense d'un sujet donné tant qu'il n'a pas couché ses idées sur le papier. De même, je crois sincèrement que nous ne savons pas grand-chose de nos pensées tant que nous ne les avons pas soumises à l'examen de personnes au moins aussi intelligentes que nous. Alors oui, l'idée de pénétrer dans cette salle de classe de Barrows Hall m'angoissait. Et cette année-là, j'ai passé une bonne partie de mes vacances de rêve à St. Thomas à réfléchir à l'humour dans le Dracula de Bram Stoker et à la paranoïa dans l'invasion des profanateurs de Jack Finney. Durant les jours qui ont suivi l'appel de Bill, je me suis persuadé que si ma série de causeries sur le fantastique, je n'aurais pas l'outrecuidance de les qualifier de cours magistraux, devait être bien reçue, par les étudiants autant que par moi-même, alors l'idée d'écrire un bouquin sur le sujet en constituerait un prolongement logique. Finalement, j'ai rappelé Bill et je lui ai dit que j'allais tenter le coup. Et c'est ce que j'ai fait. Tout ceci pour remercier Bill Thompson, qui a eu l'idée de ce livre. C'était, et ça reste, une bonne idée. Si vous aimez le bouquin, remerciez Bill, qui l'a imaginé. Si vous ne l'aimez pas, engueulez l'auteur, qui aura tout gâché. Et je souhaite également remercier la centaine d'étudiants qui m'ont écouté avec patience et indulgence pendant que je mettais mes idées en forme. Grâce à ces fameuses causeries, nombre de ces idées ne m'appartiennent plus en propre, car les réactions de mes élèves m'ont parfois incité à les modifier, à les défendre, voire à les abandonner. Durant l'année universitaire, Burton Hatlen, professeur de littérature à l'Université du Maine, nous a rejoints pour venir nous parler du Dracula de Bram Stoker, et vous constaterez que ce livre doit beaucoup à son concept de l'horreur comme courant de l'océan mythique dans lequel baigne notre inconscient collectif. Merci, Burt. Mon agent littéraire, Kirby McCauley, fan de fantastique et citoyen du Minnesota, mérite des remerciements pour avoir relu le manuscrit de ce livre, y avoir repéré plusieurs erreurs, disputé plusieurs jugements, et pour avoir passé plusieurs heures au Plaza Hotel de New York en compagnie de votre serviteur, afin de dresser la sélection de films d'horreur sortis entre 1950 et 1980 qui forment l'appendice 1. Je lui dois encore des remerciements pour bien d'autres raisons, mais ceci est une autre histoire. En outre, j'ai utilisé durant l'écriture de ce bouquin de nombreux ouvrages de référence que je me suis efforcé de mentionner dans le corps du texte. Mais je tiens à souligner que certains d'entre eux m'ont été d'une utilité inestimable. An Illustrated History of the Horror Film, Capricorn Books, 1968, l'ouvrage fondateur de Carlos Clarins. Le guide épisode par épisode de la quatrième dimension, paru dans la revue Starlog. The Science Fiction Encyclopedia, dirigé par Peter Nichols, qui m'a bien aidé à débroussailler, peu ou prou, la bibliographie de Harlan Ellison et les programmes de la série Au-delà du réel, plus d'autres ouvrages moins connus que mes vagabondages théoriques m'ont amené à consulter. Enfin, je me dois de remercier les écrivains, notamment Ray Bradbury, Harlan Ellison, Richard Matheson, Jack Finney, Peter Straub et Anne Rivers Siddons, qui ont eu l'amabilité de répondre à mes questions et de me donner des informations sur la genèse des œuvres ici abordées. Leur voix donne à ce livre une dimension supplémentaire dont l'absence aurait été catastrophique. Je crois bien que c'est tout, à part une chose. N'allez pas croire que je considère ce livre comme dénué de toute imperfection. Je suis sûr qu'il y reste encore plein de bourdes, en dépit de mes soins vigilants. Espérons seulement qu'elles ne sont ni trop graves ni trop nombreuses. Si vous en repérez une, j'espère que vous m'écrirez un petit mot pour qu'on puisse rectifier les prochaines éditions. Et puis, vous savez, j'espère que vous allez bien vous amuser avec ce bouquin. Lisez-le par bribes, ou dévorez-le de la première à la dernière page, mais amusez-vous bien. C'est pour ça que je l'ai écrit, comme j'ai écrit mes romans. Peut-être y trouverez-vous quelque chose qui vous fera réfléchir, rire aux éclats ou entrer dans une colère noire. Toutes ces réactions me paraissent satisfaisantes. Mais si vous vous emmerdez, ça me fera de la peine. Pour moi, l'écriture de ce livre était à la fois exaltante et exaspérante, tantôt un plaisir et tantôt une corvée. Par conséquent, si vous décidez de vous promener dans ces pages, vous risquez d'être secoué de temps en temps par les chaos de la route. Mais j'espère que vous constaterez, tout comme moi, que le voyage méritait d'être fait. Stephen King, Center Lovell, Maine.